Le 27 mars 2007, l'accessoiriste de cinéma et prestidigitateur André Delepierre, plus connu sous le nom de Pierre Del, me faisait l'honneur de répondre à mes questions. Voici donc près de trois quarts d'heure de conversation, au cours desquels il évoque avec beaucoup de précision le tournage de Jour de fête, son propre parcours professionnel et la rencontre avec son ami Jacques Tati. Et pour commencer, M. Pierre Del nous raconte comment le cinéma est entré dans sa vie.
Eh bien écoutez, avant de faire Jour de fête, avant de faire du cinéma, j'étais magicien.
Oui, vous étiez illusionniste.
J'étais illusionniste. Ah. Et j'avais connu Tati en 1941 et... Normalement, il m'avait dit, si vous voulez faire du cinéma, je vais faire un film. Si... Alors comme il savait que j'étais très manuel, il me connaissait manuel, donc il m'a dit, je vous mettrai, parce que moi je connais rien au cinéma, j'ai jamais fait le cinéma, mais il m'a dit, moi j'en connais pas grand chose, il avait fait quelques courts-métrages évidemment, et il m'a dit, je vous mettrai que ce soit... Et puis, s'il y a des petits bouchons à faire pour les rôles et autres, d'accord. Bon, alors, j'ai donc été accessoiriste. Baptisé par Tati, accessoiriste.
Alors, ça, vous l'avez rencontré en 41.
41, oui.
Et je peux vous demander dans quelles conditions vous l'avez rencontré?
Dans quelles conditions, c'était la... le courant de la guerre, chacun cherchait sa voie, et puis... normalement, il était mobilisé, quoi, effectivement. Et ils sont arrêtés avec, parce qu'il a toujours comme ami Riquet. Riquet, c'était Henri Marquet, qu'on appelait Riquet comme diminutif.
Ouais.
Et tous les deux, ils étaient ensemble, et puis ils ont vu une petite maison à louer, ils se sont arrêtés, tout bêtement, parce que sinon ils devaient aller sur... ils arrivaient à pied, je pense, de je sais pas où, du nord de la... du haut de la France, et ils devaient aller sur... on leur avait dit, l'armée était complètement désaxée, désarticulée,
oui.
On leur avait dit, vous allez sur Toulouse. Alors, ils partaient sur Toulouse, et puis, ils en avaient marre, ils se sont arrêtés, quoi. Voilà, exactement. Alors, moi, j'étais là pour me planquer aussi, parce que, à l'époque, j'avais à peine 20 ans, 19 ans, quoi.
Mm-hmm.
Et, les Allemands arrivaient sur Paris, j'ai pris mon vélo et deux valises accrochées sur mon vélo, une de chaque côté, je suis parti à pied d'Officier exactement où j'étais, et puis je suis arrivé, j'avais une petite maison donc au Marembert où j'ai rencontré Tati donc.
Ça se trouve où?
Marembert, c'est à 15 kilomètres de Sainte-Savère, en dessous de Sainte-Savère.
D'accord.
C'est à la limite de l'Inde, du Cher et de la Creuse. C'est un petit bled, j'avais une petite maison là, il y avait deux pièces, quoi. Et puis, je m'étais planqué là, simplement, voilà. Alors, comme j'avais plein de parents qui étaient toujours un petit peu, qui connaissaient un peu tous les potins du quartier, il y en a un qui m'a dit, c'est un cousin qui m'a dit, tiens, il y a des Parisiens qui sont là, et qui sont arrivés, et qui font du music-hall. Alors, je dis, tiens, mais s'ils font des musicals, moi aussi, parce que c'est la magie à l'époque. J'ai dit, je vais aller leur dire bonjour, on va voir qui c'est. Et puis c'est comme ça que c'est parti, puis on est devenus amis pour 40 ans.
Et alors, vous étiez donc prestidigitateur professionnel?
Oui, absolument, oui. J'ai terminé ma carrière professionnelle, donc, pas en même temps que Tati, mais dans le même spectacle que Tati, à l'Olympia à Paris. D'ailleurs, c'est lui qui m'a trouvé mon pseudonyme, d'ailleurs.
D'accord.
Mon nom normal, c'est Delepierre, donc il m'a dit, vous devriez mettre votre nom à l'envers, ça fait plus court, ça sera plus... Ah, mais c'est bon, pourquoi pas. Et lui, pendant que je faisais du musical, donc dans les années 42-43, quoi.
Oui, oui.
C'est lui qui m'a trouvé le nom Pierre Del. Parce qu'avant, je m'appelais le magicien cubiste. Je faisais un numéro qu'avec des cubes.
D'accord.
Voilà. Et après, j'ai fait un numéro, le dernier numéro que j'ai fait, ça a été avec une Jeep. Je suis rentré sur scène en GI, casqué, botté, dans une Jeep. Et je ressortais 8 minutes après en costume civil dans une Rolls. C'est le numéro que j'ai fait à l'Olympia.
D'accord.
Voilà.
Ah oui, c'était de la grande magie.
C'est aussi Tati qui m'a dit, aussitôt après la guerre, il me dit, Pierre Bell, vous devriez faire un numéro avec une Jeep. Parce qu'il me dit, tout le monde voudrait une Jeep. C'est vrai qu'à l'époque, aussitôt après la guerre, tout le monde voulait sa Jeep. Et c'est lui qui m'a un petit peu mis le truc à l'oreille en me disant, bon ben, si vous faites un numéro avec une Jeep, ça serait bien, ça serait accepté par tout le monde. Ben, j'ai dit, oui, pourquoi pas. Et puis c'est comme ça que c'est parti, j'ai fait mon numéro avec cette Jeep, et lui me l'a un petit peu... Moi c'était la construction de tout le numéro, de la Jeep, qui se transformait, tout ça, bon, et puis lui m'a fait un peu la mise en scène. Et
est-ce que la prestidigitation c'était une passion d'enfant ou...
Non, c'est une passion d'enfant si vous voulez, je veux dire, mais j'avais une petite séance à faire pour un patronage. Et puis comme je ne savais pas quoi faire, on était 5-6 à faire une séance pour gagner un peu d'argent, pour acheter du balsa, pour faire des annonces, vous voyez, bon. Et à l'époque, j'avais 8 ans et demi, quoi. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et puis j'avais vu quelques temps avant un grand gars tout en habillé en violine, avec une cape violine, un chapeau violine, enfin, qui était vraiment joli, au musée Grévin à Paris. J'avais vu ça quelques temps avant, et puis ça m'a dit, tiens, mais pourquoi je ferais pas de la magie? Alors j'ai été voir le gars, je lui ai demandé, il me dit, oui, mais il dit, ça prend la magie, t'as de l'argent, ah, ben sinon, justement, c'est pour en gagner. Et puis c'est comme ça que c'est parti, il m'a montré 2-3 petits trucs, et puis comme j'ai vu que ça marchait bien, j'ai continué après. Puis j'ai pris des cours avec lui, d'ailleurs, c'est Ocati, c'est lui qui m'a appris pratiquement à manipuler pendant 2-3 ans. Il m'a donné des cours de magie, voilà, de manipulation, parce qu'à l'époque, c'était de la prestidigitation, c'était pas de la magie.
Oui.
Et effectivement, maintenant, on n'apprend plus de la même façon. Maintenant, on achète des trucs, et puis 3 jours après, et encore, même des fois 2 jours après, les gens vous les présentent. Sinon, c'est même pas répété, c'est rien faire.
Vous avez continué cette activité parallèlement ou pas?
Je continue la magie, actuellement, oui.
Ah, encore?
Ah oui, absolument.
D'accord.
Le dernier truc que j'ai fait le réveillon du jour de l'an. J'ai fait 7 heures de magie, de 7 heures du soir à 4 heures du matin, vous voyez.
Ah, en effet.
Aux tables, enfin aux gens, enfin du ce qu'on appelle du close-up, quoi. Alors j'ai fait ça, mais normalement, le 6 mai, je vais aller à la maison de la magie de Blois, parce que j'ai travaillé pour la maison de la magie de Blois. C'est d'ailleurs la maison qui avait été entreprise par Jacques Lang à l'époque, puisqu'il était maire de Bourg à l'époque. Et je travaille donc pour la maison de la magie. Et puis je fais partie des clubs de magie de Bourg également.
Donc en 1946, vous étiez en sur scène avec Tati.
Pardon?
En 1946, donc vous étiez sur scène avec Tati.
Oui.
Et en 1947, il vous embarque dans l'aventure du cinéma.
Et puis après, ben, j'ai participé à 180 films, 36 ans de cinéma, voilà.
D'accord, après vous êtes devenu professionnel du cinéma.
Ah ben, je suis devenu effet spécial du cinéma.
D'accord.
Et c'est grâce à Tati que, je peux dire, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et c'est parti comme ça.
Donc vous avez travaillé avec qui encore?
Oh ben, j'ai travaillé avec tous les metteurs en scène principaux, Verneuil, Boisset, enfin tous les metteurs en scène. J'ai travaillé avec Orson Welles, j'ai travaillé avec tout le monde. Puis j'ai travaillé au jour le plus long, j'ai travaillé, je sais pas quoi vous dire, au Père Noël et ses ordures, enfin des films comme ça, quoi, je dirais. Alors donc, il y a de la marge. Hein.
Vous avez travaillé avec Orson Welles, disiez-vous?
Oui, dans le procès. Le procès. Mm-hmm. Je suis parti en Tchécoslovaquie avec lui. Mm-hmm. Et puis, ben enfin, c'était un personnage aussi, hein, c'est pareil. Mais c'était un personnage aussi qui aimait la magie. Alors, on arrivait à ce. Comme Verneuil d'ailleurs, bon, c'était des tours de cartes. Quand on avait le temps, entre deux prises, on se faisait des tours de cartes mutuelles, quoi.
Ah, parce qu'il pratiquait aussi la magie, Orson Welles?
Orson Welles, non. En fait, il pratiquait ça en amateur.
Oui, en amateur, mais, hein, il faisait des petits tours.
Oui, il faisait des tours de cartes, des choses.
D'accord.
Et puis Verneuil aussi, d'ailleurs, venir avec Verneuil, c'est pareil.
Et vous avez travaillé avec d'autres réalisateurs étrangers?
Réalisateurs étrangers, j'étais tourné avec, je suis en train de chercher quand on a fait le train, c'était Zanuck. Zanuck.
Le producteur, c'est Hollywood.
Dans le train, c'était pas Burt Lancaster, il y avait Burt Lancaster, mais le metteur en scène, c'était pas lui. C'est-à-dire, il l'a bien fait à la fin, le metteur en scène. Je me rappelle plus de son nom, ça m'échappe.
C'est pas John Frankenheimer?
Frankenheimer, oui.
C'est ça, ouais.
Oui, j'ai travaillé avec plein de metteurs en scène étrangers, hein. Même italien, j'ai travaillé avec des acteurs italiens, j'ai travaillé avec j'ai travaillé aussi dans un autre film avec Burton et Rex Harrison qui s'appelait L'Escalier, et c'était, je me rappelle plus le réalisateur, c'était un réalisateur étranger, anglais aussi, mais américain, je veux dire. Ça, je me rappelle. Il y avait Burton comme acteur principal et Rex Harrison. C'est les deux.
Stanley Donen,
voilà.
Ah oui, qui faisait des comédies musicales.
Voilà, exactement.
Ah oui.
J'ai travaillé avec plein de metteurs en scène, mais les noms, ça m'échappe.
Oui, bien sûr.
Il y a 80 films. Puis il y a quand même, disons, 25 ans que j'ai abandonné le métier. Alors maintenant, ça commence à s'échapper petit à petit. Hein. Donc, vous avez bien fait de l'enregistrer parce que ça c'est un souvenir.
Ben vous avez encore une excellente mémoire, malgré tout. Hein.
Oui, quand même, oui, malgré tout, oui. Ah. Heureusement, d'ailleurs, pour moi, oui.
Ah oui, donc c'est amusant, ça, parce que je pense notamment à cette dame, j'ai toujours du mal à me souvenir de son nom, Sylvette, qui était script pour Tati.
Oui, Vaudreau.
Voilà. Et qui aussi, elle a travaillé après dans le cinéma.
Qui a fait Les Vacances de Musculo et,
voilà,
et Playtime.
Voilà, et qui a travaillé ensuite avec plein de gens, dont Polanski.
Exactement, ça fait un peu pareil, sauf que nos chemins n'ont pas été identiques.
C'est ouais.
Mais on a des amis, enfin, pas des amis, mais enfin, je veux dire, des parcours avec les metteurs en scène connus. Bon, ben, en général, ils vous reprennent deux fois, trois fois, suivant les films qu'ils font après.
Bien sûr, vous avez retravaillé ensuite, après, avec Jacques Tati.
Ah ben, j'ai fait Les Vacances de Musculo, donc après.
Oui.
Et puis, j'ai pas pu faire mon oncle parce qu'à l'époque, j'avais signé un contrat avec Gavin. Et donc, j'ai donc pas fait mon oncle, mais j'ai fait Platane pendant 2 ans et demi. Voilà.
Alors, sur le jour de fête, vous avez été accessoiriste, vous avez joué aussi dans le film?
Exactement, oui, bah oui, parce que comme jour de fête a été fait en artisanat, on était pratiquement 10 techniciens au grand total. Et dès qu'il y avait un petit rebouté, c'était les trois mousquetaires, c'est-à-dire Riquet, que je vous disais, Marquet, donc Henri Marquet, Cotin, qui venait du cinéma, mais qui était costumier de cinéma.
Ouais.
Et puis moi, donc à nous quatre, on faisait les trois mousquetaires, je veux dire, avec Tati, oui.
D'accord, donc ça veut dire que vous avez joué plusieurs rôles dans le film?
Et nous trois, justement, on a dû jouer 3x24, on a dû jouer autour de 25 rôles.
D'accord, d'accord.
Moi, j'ai joué dans... Parce que comme le film a été tourné en noir et en couleur...
Oui.
Donc, il y avait des scènes des fois que Riquet faisait en noir et blanc, et puis on attendait d'avoir un peu plus de soleil pour la couleur. Et puis dans l'intervalle, Riquet fichait le camp. Bon, entre autres, c'est la scène du bourdon où on voit le facteur attaqué par un bourdon, et le bourdon s'en va ensuite sur le fousseur. Donc c'était Riquet à l'époque.
D'accord.
Dans la version noir et blanc.
Dans la version noir et blanc.
Donc, dans la version couleur, il a été obligé de faire autre chose. Et puis alors Pierre Dalle, vous pouvez remettre le costume, et dans la version couleur, c'est moi qui fais le faucheur avec le bourdon. J'ai 9 rôles pratiquement dans la version couleur et 8 dans la version noir et blanc. Le rôle principal, c'était l'employé de mairie sur la place avec le petit canotier. C'est moi qui commande la montée du mort, oui.
En effet, oui.
Alors vous me direz, avec un petit canotier, simplement une petite moustache. Bon, et puis après, suivant les besoins du montage, effectivement, 3 scènes de suite, je m'en retrouve. Donc, au début, on me voit chez le coiffeur.
Oui.
En train de discuter avec un client à l'arrière quand il lui coupe une mèche.
Oui.
Hein. Alors, je suis derrière en train de discuter avec la personne.
D'accord, je vois très bien la scène.
D'après, je me retrouve avec un drapeau, avec une casquette, en train de mettre un drapeau à la fenêtre. Et la semaine d'après, je me retrouve en employé de mairie, donc en train de monter le poteau. J'ai trois scènes de suite et trois protestines différentes, oui.
D'accord.
Là, c'est les secrets du montage, évidemment. Hein.
Oui, bien sûr, oui. La couleur, apparemment, c'était important quand même dans le projet de Tati.
Ah ben oui, mais il voulait justement apporter la couleur par les forains.
Ah oui.
Alors au début, on avait fait repeindre même les portes et les fenêtres en gris, un gris un peu sombre.
Pour rendre la ville un peu moins gaie.
Quand les forains arrivaient, il y avait vraiment la couleur qui passait partout, les portes s'allumaient, tout ça, enfin bon.
Ça a dû être au départ une grosse déception, on s'est rendu compte que le film ne pouvait pas sortir en couleur.
Oui. Surtout qu'à la fin, normalement, pratiquement, quoi qu'on dise, François qui a fait, qui a remis la couleur sur pied. Vous avez entendu parler.
Oui, bien sûr, oui. Hein, qui a travaillé avec la fille de M. Tati.
Oui, avec Sophie, non?
Oui.
Et donc, quoi qu'il en dise, moi je suis persuadé d'avoir vu 300 mètres sortis. 300 mètres de couleur sortis.
Oui.
Et lui il me dit que c'est pas possible, je lui dis que si, parce que je les ai vus à Château-Méan et je suis persuadé qu'il y avait. Donc, c'était possible de sortir le film. Mais ça c'est pas sorti.
Parce que quand vous dites, pardonnez-moi, mais quand vous dites j'ai vu 300 mètres de pellicule sortie, ça veut dire que vous avez 300 mètres qui ont été sortis en couleur qu'on pouvait projeter, donc.
Exactement. Mais je me souviens qu'on avait dit il y a 300 mètres qui sortent, là, qu'on allait voir, justement, d'ailleurs, Tati me montrait des petits bouts avec une lunette spéciale qu'on avait, il me disait, voyez, regardez Pierre Dell, voyez les... Le pantalon en velours du gars, vous voyez, on voit les côtes, tout ça, ben, je dis, oui, effectivement, c'est très bien, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je dis, oui, c'est formidable. Et puis, si bien qu'à la fin, on était tellement, d'ailleurs, c'est ça qui me fait dire en plus que j'ai raison, c'est qu'à la fin, normalement, Tati a dit, bon, ben, et puis, maintenant, on sait que ça va sortir, on tourne plus en noir et blanc.
D'accord.
Et on a stoppé le noir et blanc, directement on a tourné qu'en couleur.
Ah oui, donc il avait...
Et à la fin, comme on n'a pas pu sortir la couleur, on a été obligé de tirer les contre-types de la couleur pour avoir le noir et blanc.
Mmh.
Alors vous voyez, donc je suis persuadé de mon coup.
Est-ce que vous avez eu recours à vos talents d'illusionniste dans le film? Parce que
absolument, oui.
Il y a des choses assez étonnantes par rapport, par exemple, au vélo.
Oui.
La serviette du facteur qui traverse la pièce et qui va se déposer... Exactement.
C'est la serviette du facteur, c'est la serviette de toilette.
Oui, c'est ça, c'est sa serviette, oui, pardon, pardonnez-moi, oui. La serviette de toilette quand il va se raser. Et la serviette traverse la pièce et tombe.
Effectivement, on l'a tournée à l'envers. Hein.
C'est ce qui me semblait aussi, oui. Mais.
Ça a été avec un fil et puis on l'a tournée à l'envers.
D'accord. Il y a encore d'autres.
Le vélo, normalement, parce qu'il avait déjà fait avant de faire le jour de fête, il avait fait l'école des facteurs. Et il l'avait fait peu de temps avant avec Henri Marquet. Que je vous disais tout à l'heure, bon, Riquet, et puis qui fait le boulanger, pas le boulanger, le boucher, le chef de Pantard, tout ça dans le film. Hein. Et ce film avait été fait avec Riquet, avec Cotin, donc c'était les trois. D'ailleurs, quand ils sont venus me chercher à Clichy au mois de mai, en Jeep aussi, parce qu'ils sont venus me chercher avec un petit train, et quand ils sont venus, ils m'ont dit, on a déjà fait le vélo, on l'a essayé, enfin on pense qu'il faut bien serrer le guidon pour que le guidon ne tourne pas, tout ça, bon. Ben, si moi je suis pas tellement sûr, je pensais plutôt pour le contraire. Alors elle me dit, pourquoi, ben, alors j'ai écouté, on va essayer, hein. Alors j'ai dégonflé un peu les pneus, ben, évidemment il fallait faire ça sur une route légèrement en pente, parce que sinon il n'aurait pas monté, évidemment, il n'aurait pas été très loin.
Bien sûr.
Alors légèrement en pente, bien balayé, comme t'as bien entendu, qui restait pas un petit gravier ni rien pour dévier la roue. Et puis on le lançait, mais alors j'avais lubrifié la direction du vélo, vraiment il était ultra sensible, je veux dire, au moins d'un petit caillou, la roue partait, je veux dire, de travers, vous voyez.
Ah oui.
Et puis on le lançait, ben, c'est moi qui le lançais, normalement je l'équilibrais bien, puis je le lançais. Et il fait ce qu'il voulait. D'ailleurs, il y a un moment donné où il prend un virage, mais il fait au moins, pas le moins de 100 et quelques mètres. Il prend le virage, d'ailleurs, il y a deux chefs qui le regardent, et puis qui regardent le vélo passer, au fur et à mesure. Mais c'est comme ça qu'on l'a fait, puis c'est Riquet qui le recevait pour éviter qu'il tombe, éventuellement, enfin, qu'il se détériore. En fait. Non, moi, j'ai gardé tous les accessoires des films de Satie, je les avais conservés.
Oui.
Et je les ai vendus à Saint-Sever.
D'accord.
Saint-Sever et la Chape, puisque c'est la communauté de communes maintenant. Hein. Alors, j'aurais vendu là, il y a, disons, 2 ans à peu près.
Hein.
Uh-huh. Et il y en avait une tonne.
Hein. Oui, j'imagine, oui. J'imagine.
Il y avait les accessoires de jour de fête, sauf le vélo, parce que le vélo, il est au musée Peugeot. Parce que c'était un vélo Peugeot, alors à l'époque, à la fin du film, la maison Peugeot a dit vous nous donnez le vélo et on vous donne une voiture en échange.
Ah.
Alors Tati a donc eu une voiture en échange du vélo.
Du vélo.
On avait un double, de toute façon, qui restait à Saint-Sever.
D'accord. Oui, parce que de toute façon.
Oui, parce que si jamais il prenait un paie, il nous fallait, en général, on doublait tous les accessoires aussi. Hein. Tous les accessoires qui étaient cassables, disons, on les doublait.
Et quel genre de personnage c'était Tati? Parce que quand vous le citez, on l'entend, vous voyez, alors que vous connaissez plus longtemps.
On s'est jamais tutoyé l'un et l'autre, oui.
Ouais.
Moi je lui disais Tati et lui me disait Pierre Dell.
Une question que je me suis posée en voyant le film, tout n'était pas écrit au départ, il y a certainement des choses qui ont été improvisées, non?
Les notes dixièmes étaient écrites. Hein. Mais par contre, si sur le moment on lui donnait un petit truc qui améliorait le gaz qu'il avait, il le prenait évidemment.
Oui, il était ouvert à toute proposition.
Ah oui, absolument. Moi-même il me disait, quand vous avez un gag, vous le mettez sur un carnet, j'avais mon petit carnet de notes. J'en ai encore d'ailleurs que j'ai gardé, qu'on n'a jamais servi d'ailleurs.
Est-ce que Jacques Tati était quelqu'un de drôle et d'extraverti dans la vie privée?
Dans la vie, ça dépendait. S'il avait des problèmes, il était plutôt taciturne, taciturne, je veux dire.
Oui.
Sinon, autrement, le jour où vraiment il voulait montrer son personnage,
ouais.
Il était sensationnel. Il faisait n'importe quoi. Moi, je l'ai vu un soir, il était venu fêter un anniversaire à l'hôtel où j'étais, et il y avait un plat de pâtes sur la table qui restait, un grand plat de pâtes, on était à 8 pour déjeuner, pour dîner, bon, il restait des pâtes, et il cherchait une assiette pour mettre son gâteau qu'il avait amené, bon, et il s'est renversé le plat de pâtes sur la tête et pour mettre le gâteau dedans, oui.
D'accord.
Donc, je vous dis, il pouvait vraiment faire n'importe quoi. Hein.
Et puis,
ayant fait du rugby déjà avant, dans sa jeunesse, il avait fait du rugby,
oui.
Et donc, toutes les cascades qu'il y avait, il se les payait, hein, ça... Aussi bien quand il part avec le vélo qui a attaché la chaîne, tout ça,
ouais.
Ou la chute dans l'eau, effectivement, tout ces trucs-là, c'est lui qui l'a fait.
Il n'y avait pas de doublure.
Il n'y avait pas de doublure, non, absolument pas. Et il voulait surtout pas de doublure, il voulait vraiment que ça se faisait qu'il l'a fait.
Est-ce que Tati était autoritaire pendant le tournage?
Très, très autoritaire. Il n'aimait pas d'ailleurs être commandé par quelqu'un, d'ailleurs.
Oui.
S'il avait pu faire le film tout seul, il l'aurait fait.
Ouais.
Et effectivement, d'ailleurs, même par la suite, puisque au début, ça a été Fred Orin qui était producteur de Jours de fête et aussi de l'école des facteurs qu'il avait fait avant. Donc, ils avaient monté une société ensemble et puis après, il l'a dissous parce que il y avait des problèmes financiers, tout ça. Bon, bah. Et il s'accordait pas tellement avec quelqu'un d'autre qui commandait.
Oui, c'était un personnage...
Oui, il était très personnel pour ça.
Uh-huh.
Et par contre, même si je vous dis, si un jour... et puis, il était jamais sûr de lui. Pierre Dell, quand il tournait une scène qu'il ne pouvait pas voir, quand c'était lui qui tournait, évidemment, il n'était pas derrière les caméras. Donc, quand c'était le facteur, entre autres. Pierre Dell, comment vous avez trouvé la scène, là, comment ça va? Parce qu'il aimait bien d'avoir comme référence des gens de musical.
Oui.
Il adorait le musical et le cirque. Il a d'ailleurs joué avec pas mal de clowns, Rome, tous ces gars-là, enfin je dis que c'est du cirque à l'époque.
Mm-hmm.
Et il aimait bien, je vous dis, avoir l'avis de gens de musical. D'ailleurs, même dans Jour de fête, on est au moins 4 ou 5 faciles à avoir fait du musical dans Jour de fête, oui.
Oui.
Alors donc, ils nous demandaient à la fin, je vous dis, alors comment vous avez trouvé la scène, tout ça. Mais je vous dis, on était une petite équipe, les trois mousquetaires, comme je vous ai dit tout à l'heure.
Oui, oui.
Et donc, à nous quatre, je veux dire, avec Tati, donc à nous quatre, on a pratiquement fait le film à quatre, je veux dire. Le restant, pour lui, c'était de l'accessoire.
D'accord.
Même la script, d'ailleurs, il n'aimait pas les scripts, il aimait. Puis
oui, compte, alors ça, j'avais cru comprendre.
Mais oui, il l'a dit,
j'ai entendu une conférence de Madame Boudreau à Angers il y a quelques années, et c'est vrai qu'elle expliquait que la première fois qu'elle a travaillé avec lui, elle a fallu qu'elle fasse ses preuves parce qu'il n'était pas du tout convaincu de la nécessité d'avoir une script.
Exactement, il avait dit c'est le cul sur votre chaise, moi je vais.
Oui.
Ça sert à rien une script, elle a démontré quand même malgré tout.
Visiblement, oui.
Ça servait à quelque chose.
Elle nous avait raconté à quelle occasion justement.
C'est pour la scène du saut qui tourne autour du bateau.
Voilà.
Et ben là, effectivement, il y avait plein de scènes à faire. Alors comme il s'énervait, on peut jamais y arriver. On l'a refait au moins une dizaine de fois, mais ça dépendait de la vague, ça dépendait de beaucoup de choses.
Oui.
Et malgré que j'avais des fils invisibles partout pour tirer le saut, pour le ramener, effectivement, c'était pas toujours valable. Alors effectivement, c'est une scène qui a demandé beaucoup de prises. Puis à la fin, il dit, bon, alors comment je vais faire? Alors c'est là qu'elle lui a dit, justement, la première scène, on peut la prendre, on peut prendre la quatrième parce que ça c'est bon pour cet endroit-là, et ainsi de suite. Et il y a plein de petits montages avec les scènes qui étaient valables.
Oui, oui.
Alors c'est comme ça qu'il a compris que ça servait quand même à quelque chose d'avoir le script. Mais sinon, je vous dis, s'il avait pu faire le film tout seul, il l'aurait fait, quoi.
Oui.
Malheureusement, c'était pas possible. Surtout pour Platham.
Oui.
Parce que là, c'était le gros morceau. Là.
Bien sûr.
Tati était vraiment observateur par-dessus tout. Alors ça, vraiment, il avait un don d'observation. Si vous voyez 30 secondes, il connaissait tout, vos vices, vos défauts, vos qualités. Enfin, il connaissait, je vous dis, c'était vraiment remarquable.
Oui, oui.
Et en fin de compte, donc il était très observateur et puis avant-gardiste aussi, surtout. Hein. Parce que même dans le jour de la fête, il y a de l'avant-gardiste quand même. Il y a la poste en Amérique, il y a tout ça, d'ailleurs. Donc c'est quand même de l'avant-gardiste.
Oui, et puis même au niveau par exemple, le moment où il arrive à superposer le son du film américain sur les images sur le couple qui se regarde, je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène. Il y a un moment, le forain et une jeune femme du village qui se regardent, et en fait, en fond sonore, on a le film américain.
Oui, exactement.
C'est extrêmement neuf, j'imagine qu'en 46 ou 47.
En Amérique, quand on voit le gars qui est attrapé par un avion directement, qui est au sol et qui est attrapé par un avion qui décolle avec. Si vous vous souvenez pas de ça, vous essayez de le revoir, les motos qui passent à travers les flammes, tout ça, voilà. Bon. Alors donc, Julie, il était vraiment très, très avant-gardiste aussi.
Justement, c'est pour ça que je m'interrogeais, mais à l'époque, il n'avait pas de cinéaste référent, je ne sais pas.
Si, il se basait sur... il n'aimait pas qu'on le compare à Chaplin. Il n'aimait pas ça du tout, parce qu'il disait que les gags, c'était... C'était pas lui qui les amenait, les gars qui venaient à lui. Il a raison d'ailleurs. En général, c'est toujours parce qu'il y a un truc qui lui arrive sur la tête que le gars se fait. Tandis que si ça avait été Chaplin l'aurait fait autrement, je veux dire, il aurait dit, voyez, c'est moi qui amène ça. Bon, donc il n'aimait pas qu'on le compare à Chaplin. Mais par contre, il avait comme Buster Keaton, Roselyne, enfin tous ces gars-là, je veux dire, ils connaissaient vraiment très bien
les burlesques.
Ah oui, tous les burlesques américains. Et d'ailleurs, quand il était en Amérique pour, je me souviens plus quel honneur il avait eu, c'était un César, pas un César, mais un Oscar, je crois. Il est photographié, j'ai encore des photos de lui d'ailleurs, il est photographié avec Buster Keaton, Laurel et Hardy, enfin tous ces gars-là, je veux dire. Et d'ailleurs, Buster Keaton lui avait demandé de travailler pour lui, d'ailleurs, pour faire la sonorisation de ses films.
C'est vrai.
Parce que il trouvait justement qu'il n'y avait rien à dire, justement, et qu'il savait très bien le faire.
Ah, ça, c'est...
Eh oui.
Oui, bel hommage.
Ben oui. Alors, je m'excuse, tout à l'heure, je voulais vous lire, là, quand on parlait de Platon.
Oui, je vous en prie. C'est moi qui vous ai interrompu.
Non, mais il y a eu un avant Platon et un après Platon pour Tati.
Oui.
Il y a eu vraiment deux Tati différents, parce que là, il a été ruiné.
Oui, c'est...
Et là, il n'a plus voulu travailler en France. Tous les films qu'il a fait, les a fait à l'étranger. Les deux autres qu'il a refait après, quoi. C'est-à-dire... Trafic et puis Parade et Trafic. Bon, alors ces deux films-là, il les a fait en Suède, en Hollande, enfin bon, mais il n'a jamais voulu retourner en France parce que dans Plétam, il avait été emmerdé par les syndicats, tout ça. Bon, alors il m'avait dit, même avant la fin du film, il m'avait dit, Pierre Deuil, plus jamais je retravaillerai en France. Alors bon, bah, effectivement, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Quand il avait quelque chose en tête, il le faisait. Hein.
Ouais.
Ah oui, oui. Mais je vous dis, il y a eu Tati avant Platam et Tati après Platam. Parce qu'il a été vraiment de... Il a changé de caractère du tout au tout.
Hein. Oui, ça l'a peut-être un peu aigri, non?
Ah oui, 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 absolument. Ouais. Même avec moi, d'ailleurs, on se voyait beaucoup plus... avec des espaces beaucoup plus grands. Hein. Enfin, j'ai quand même connu pendant 40 ans quand même, jusqu'à son décès. Alors par contre, en ce moment, on est en train de faire un film que Tati n'a pas fait. Ça, je vous donne peut-être le tuyau, c'est peut-être un scoop pour vous, là.
Oui.
Tati devait faire un film, il m'avait demandé, après mon oncle, il m'avait demandé justement de lui enseigner un peu de la magie. C'est ce que j'ai fait, bon, j'ai enseigné quelques trucs, et puis comme il était pas manuel du tout, alors, il était, je vous dis, très observateur, tout ce que vous voulez, mais Manuel, non. Si vous lui donnez un tournevis, il le sait. Hein. Alors, en fin de compte, il s'est aperçu lui-même qu'il pourrait pas perdre la magie. Et ceci dit, un jour, il me dit, Pierre Deuil, le prochain film qu'on fera ensemble, c'est vous qui serez la vedette. Ah, c'est bon. Il me dit, oui, ça va s'appeler l'illusionniste. Ah, ben, c'est bon, ouais, effectivement. Ouais. Et, bon, on est parti, il a écrit un scénario... Il a même été faire des repérages dans les pays de l'Est, tout ça. Et puis en fin de compte, il a changé d'idée avant de faire le film. Et le film, c'est pas fait. Ce qui a été fait, c'est Platon à la place. Bon, donc, il voyait plus grand parce que Platon, pour lui, c'était son chef d'œuvre.
Mm-hmm.
Et en fin de compte, le film, c'est pas fait.
D'accord.
Alors, il est décédé, et le scénario est resté, avec Confusion d'ailleurs, un autre film qu'il a terminé aussi, avant sa mort. C'est donc Confusion et Illusionniste qui ont été faits. Mais alors, par contre, comme c'est Jérôme Deschamps qui a tous les droits des films maintenant de Tati, il y a une personne qui a fait les triplettes de Belleville, si vous connaissez
bien,
donc, qui a racheté les droits à Jérôme Deschamps et qui est en train de faire en ce moment. L'illusionniste en dessin animé. Et il fait ça, il a ses studios en Écosse. Alors, il m'avait demandé d'aller le voir et puis j'ai pas pu non plus, malheureusement. Il avait presque un mois passé là-bas et en fin de compte, là, il y a un mois et demi, il m'a présenté à Paris, c'est tenté, pour 4 personnes qui étaient là, dont j'y étais, donc il m'a présenté 45 minutes déjà de montée. Et donc, il y a ce film qui va sortir en, je pense, fin 2008 sûrement, parce qu'il y a encore du boulot à faire.
En effet.
Et donc, l'illusionniste va sortir, donc ça sera le film de Tati. Mais avec des personnages, je veux dire, en dessin animé.
Est-ce que vous avez revu le film récemment?
Oh, ben, je connais que ça. Je l'ai vu des cinquantaines de fois, je veux dire.
Oui.
Parce qu'en plus, après, à la fin du film, je suis reparti avec Tati, tous les deux. On est retourné à Sainte-Savère pour faire les bruits.
Oui.
Le bruitage de corbeaux, de croissements de grenouilles, tout ça. On est resté pas 15 jours, je veux dire, mais aussi on a dû rester à peu près une quinzaine de jours à faire que les bruits de nuit et on entendait les chiens au loin. Alors, c'était pas facile à faire parce que justement où il y avait le bon bruit, il y avait un train au loin qui passait, il y avait plein de choses. Et après, j'ai refait la sonorisation des bruits de porte et tout ça avec lui en studio. Alors donc, j'ai travaillé sur sur jour de fête, j'ai travaillé un an et demi à peu près, je veux dire.
D'accord. Est-ce que les voix étaient post-produites également?
Les voix ont été enregistrées sur un petit nagra.
Oui, mais alors pendant le tournage.
Pendant le tournage, on avait un petit nagra simplement, et puis après, pour avoir le, disons à peu près les paroles qu'il disait, tout ça, et qu'on aille le dialogue, quoi, je veux dire. Mm-hmm. Et puis après, je pense que ça a été refait où la sonorisation a été refaite au studio de Billancourt avec un sonoriste qui s'appelait Mono, je crois, il me semble. Enfin, peu importe. Enfin.
Alors, ce que vous appeliez un agra, c'est un magnétophone
C'était un tout petit magnéto qui fait 20 cm à peu près, de 20 cm sur 15 à peu près, 5 d'épaisseur à peu près. Oui, c'était vraiment le summum de
l'époque.
Des journalistes qui prenaient quelque chose, oui.
D'accord, donc c'est enregistré sur bande?
C'était enregistré sur... Oui, c'était sur bande à l'époque.
Qui est-ce qui faisait la musique de ça?
Le jour de fête, c'est Jean Yateuve. Mm-hmm. Dans les autres, je me souviens plus le nom, mais il y en a... Les vacances de M. Hugo, mon oncle... Et je ne sais même pas si c'est Platane n'a pas été fait par le même...
D'accord.
Je crois, il me semble. Tout au moins, il y en a déjà deux qui ont été faits par un autre. Je le sais comme ça, mais ça me rappelle pas l'esprit.
L'environnement sonore est tellement important dans ces films.
Ah oui, absolument, oui.
On peut imaginer qu'il avait un œil... Enfin, un œil, une oreille sur la musique.
C'est-à-dire, le son pour lui avait autant d'importance que la parole. Mais comme il n'y avait pas beaucoup de paroles, il fallait qu'il joue avec le son. Et c'est ce qu'il savait très bien faire, justement. C'est pour ça que je vous dis que Pierre Kittel lui avait demandé de faire la sonorisation pour lui.
Oui, oui. Mais alors, c'est ce qu'il fit ou pas?
Pardon?
Il l'a fait ou pas?
De quoi? Non, avec Pierre, non.
Non, ça s'est pas fait.
Non.
D'accord. Quand vous voyez le film, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un reflet fidèle de ce qu'était finalement la France rurale de l'époque?
Oui, un petit peu, oui, quand même, malgré tout, parce que le facteur était très connu. C'est lui qui faisait toutes les courses. Si quelqu'un avait besoin de pain ou de médicaments, moi, c'est lui qui les apportait, tout ça, alors oui. Alors c'est la vie du facteur de campagne. Maintenant, effectivement, c'est plus le même facteur. Pour les raisons plus récentes, c'est qu'il vient en voiture les trois quarts du temps.
Bien sûr, hein. On le voit pas même. Donc pour les enfants qui voient le film, c'est aussi un document historique.
Exactement, oui. Oui, mais pour montrer l'époque que c'était et que les époques changent évidemment avec le temps.
Vous avez cessé de travailler dans le cinéma?
Oui,
il y a
25 ans maintenant, puisque j'en ai 85,
et d'accord.
J'ai quitté à 60 ans pile. Le dernier film, ça a été Les Cavaliers de l'Orage, avec Gérard Klein et Marlène Jobert, qu'on a tourné en Yougoslavie. Et l'avant-dernier, ça a été avec Delon, c'était Le Choc, avec Catherine Deneuve et Delon. Alors j'avais dit à Delon, comme j'étais un des rares aussi à pouvoir le tutoyer, parce que sinon c'est Monsieur Delon, évidemment. Alors, je lui dis, Alain, c'est le dernier film qu'on fait ensemble. Elle me dit, pourquoi t'es fâché? Je dis non, mais parce que j'ai signé un autre contrat, là, que je vais faire aussitôt après celui-là, et puis après je prends ma retraite. Or, elle me dit, tel que je te connais, elle me dit, je suis sûr qu'on te verra traîner tes guettes dans le studio dans moins de 6 mois. Oh, ben, je te parie tout ce que tu veux. Alors, on a parié ensemble une caisse de champagne et puis j'ai jamais été la chercher, oui.
Mais vous avez gagné votre pari quand même.
Ah, j'ai gagné mon pari. Ça, il m'a jamais revu, il m'a mis dans un studio. Du jour au lendemain, j'ai tout stoppé. Les deux seuls avec qui j'ai eu un peu des contacts, de temps en temps, quand on arrive à se retrouver ou à se téléphoner, c'est avec Gérard Klein, donc qui a fait la postface d'un bouquin que je viens de finir d'écrire.
Ah oui.
Et l'autre, c'est François Perrin, avec qui j'ai fait 4-5 films. Et on est restés amis, très amis ensemble. Alors quand on se voit, on se jette dans les bras l'un de l'autre, et puis voilà. Mais sinon, autrement, j'ai quitté avec Delon, j'ai quitté avec Belmondo, j'ai quitté avec tous les autres avec qui j'ai travaillé, quoi.
Monsieur Pierdel, je ne vais pas vous embêter plus longtemps parce que je crois que j'ai beaucoup abusé de votre patience.
Oh, bah non, absolument pas.
En tout cas, je vous remercie. Si
vous allez vous voir, ça va être avec plaisir, je vous dis, mais là, dans les conditions que je suis en ce moment, c'est pas possible.
Bah, je comprends tout à fait. Donc, je vous souhaite une meilleure santé.
Et bah, je vous remercie.
Je vous remercie. Et puis, on se verra peut-être à Sainte-Sévère.
Bah, pourquoi pas, au mois de mai, oui.
D'accord.
D'accord, entendu.
Je vous remercie infiniment.
Je vous en prie. Merci beaucoup. Que ça pourra vous satisfaire comme ça.
C'était super de parler avec vous. Au revoir, merci.
Bonne journée.